Radio. Merci de nous écouter en direct et en podcast sur duradio.fr. Je suis Amélie Bochtan-Nidam, vous avez l'habitude de me lire dans les pages de Cult News. Et aujourd'hui, j'ai autour de moi une équipe de rêves réunis pour un seul but, vous parler de performance et particulièrement de l'événement le plus attendu de la rentrée parisienne. Ça s'appelle Performissima et ça se passe le 18 octobre au Centre Wallonie-Bruxelles dans le Marais à Paris. Pour en parler, j'ai autour de moi Félix Touzalin, vous êtes performeur et danseur, bonjour. Lou Forou, vous êtes performeuse sonore et visuelle.
Bonjour.
Gérald Curdian, vous êtes un artiste musical.
Oui, bonjour.
Stéphanie Pécourt, vous dirigez le Centre Wallonie-Bruxelles, que c'est chic.
N'est-ce pas?
Et Katerina Zevolin, vous avez l'honneur d'être la commissaire générale de ce merveilleux festival qui s'appelle Performissima. Bonjour.
Bonjour.
Alors bonjour, bonjour. Ma première question, elle est pour vous tous et toutes. Elle est faussement simple. J'avais envie de vous demander, Félix, Lou, Gérald, Stéphanie et Katerina, quelle était votre définition de la performance? Et on va commencer dans le sens, pas forcément du goût du monde d'ailleurs, avec vous, Gérald, si vous voulez bien.
Alors, moi je me bats pour une définition spécifique de la performance qui est vraiment dans la généalogie des arts visuels, c'est-à-dire c'est pas du théâtre, ça vient pas d'une logique forcément dramaturgique de base, c'est un certain rapport à la manipulation du réel dans le temps avec des actions. C'est-à-dire on part d'une situation donnée qui n'est pas représentée, il n'y a pas forcément de monde parallèle virtuel. Il y a des choses virtuelles qui se passent, mais c'est agi et c'est dans le réel et ça parle au réel. Ça part du réel et ça parle au réel. Voilà, pour moi je dirais ça.
Félix ?
Alors, peut-être une réponse un peu longue, mais j'essaie de faire court. Il m'a fallu
ne faites pas forcément ni long ni court. Je vais revenir de toute façon sur toutes les réponses que vous allez donner.
D'accord. Alors, moi, là où j'en suis de ma définition de la performance, pour la saisir, il m'a fallu faire deux détours disciplinaires, l'un du côté de la danse et l'autre du côté des métiers d'art, en fait, de l'artisanat du métal en particulier. Parce que j'ai été formé à l'école Boulle en tournage sur bronze. Donc on travaillait comme une sculpture en mouvement sur ces tours pour sculpter la matière, le métal. Et ensuite au Beaux-Arts de Paris dans l'atelier d'Emmanuel Wynne qui est chorégraphe et danseuse. Et où nous a été transmis des outils en fait pour travailler le mouvement. Et dans ces deux espaces, la question de la pédagogie du geste, de comment on transmet le geste, m'a aidé à comprendre ce qu'était la performance, parce que je crois qu'il y a là quelque chose de commun entre la pédagogie du geste et la performance, à savoir un intérêt pour comment on montre le faire, comment ça se montre le faire. Et donc, une définition de la performance pourrait être, pour moi, à l'heure actuelle, encore une fois, parce que circonscrire par une définition, c'est un peu réducteur, mais la performance, ce serait ce qui relève du souci du faire et du souci du faire comme une expérience qui est partageable. Comment on la partage? Comment on partage le faire?
Stéphanie, vous êtes un endroit qui est un peu différent de vos voisins, voisines.
Absolument. Mais je m'inscrirais plus effectivement dans le sillage de ce que disait Gérald, ce qui moi m'a toujours fasciné avec la performance et venant par ailleurs effectivement du monde initialement du spectacle vivant, c'est l'anti. C'est l'anti-spectacularité, c'est l'anti-reproductibilité. C'est l'anti-institutionnalisation. Les premières performances, le mouvement même, entre guillemets, tel que reconnu, tel que célébré dans les années 70, s'inscrivait précisément en porte-à-faux, justement, avec des volontés d'institutionnalisation, de muséification. Donc, ce qui, moi, fondamentalement, m'intéresse dans la performance, c'est d'une part, effectivement, le geste, mais le geste compris, accepté et valorisé dans ce qu'il a, effectivement, de non reproductible, dans ce qu'il a de l'ordre du cri. Une performance, c'est effectivement un cri, c'est le ink, c'est le nunc, c'est l'ici, maintenant, et c'est le refus, entre guillemets, également d'une visée testamentaire. C'est vraiment fondamentalement, effectivement, ce qui m'intéresse. Et ce qui la distingue du reste, c'est justement, effectivement, cette essence cette essence éphémère, cette proclamation de « ça peut ne pas durer », c'est ça qui m'intéresse. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un théâtre mal fait ou une danse mal faite. Il y a parfois une confusion et on inscrit la performance à un endroit également très souvent. Et d'ailleurs, le fait qu'elle se loge souvent dans des vernissages la réduit à un endroit de périphérie et de divertissement. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus politique, de beaucoup plus critique et subversif.
Lou.
Je rebondis sur la dimension politique que tu ramènes. Je trouve que dans la performance, il y a un engagement de son corps et il y a la dimension live. Donc moi, je vois comme un mash-up de engagement de son corps et temporalité live. Mais c'est pour ça que moi, je ne me sens pas trop performeuse. Enfin, je ne performe pas donc ça en réalité. Vous allez dire qu'est-ce que je fais là. Mais je suis pas sûre. Enfin, comme je fais plutôt du son. Je vois plus comme une forme de montage en live ce que je fais. Donc c'est là où ça raccrocherait à la performance. Mais pour moi, la performance, il y a la dimension de vraiment engagement de son corps dans l'espace. C'est ça que je trouve à la différence de, d'autres formes qui pourraient ne pas être de la performance. Et je ne sais pas trop si, personnellement, quand je fais du montage son en live, j'engage beaucoup mon corps ou pas. Donc c'est un peu entre la performance et le live, on va dire.
Ça, c'est à vous d'avoir répondu à cette question. Moi, je pense que oui, mais ça, c'est à vous de dire. Katerina, qu'est-ce que la performance pour vous ?
Oui, effectivement, comme Stéphanie le disait tout à l'heure, c'est un outil, un dispositif de l'ICET, donc de l'ICIE maintenant, de communiquer un sentiment, une forme de prise de parole, une forme de prise de place de corps au sein de l'espace et devant ou pas. Une audience. Et au fait, la performance comme forme d'art la plus ancienne qu'on peut imaginer, parce qu'il suffit d'avoir un corps et d'émettre du bruit et de bouger ou pas, parce que tout peut être la négation de tout. Et donc, effectivement, juste effectuer une action et amener un pouvoir de transformation substantielle et immédiate dans la réalité dans laquelle où l'on se trouve. Donc c'est cette forme incroyable de pouvoir et incroyable et privilégiée de pouvoir communiquer immédiatement avec les spectateurs.
Alors vous avez la parole, je voulais vous la garder si vous voulez bien, puisque c'est vous qui avez pensé ce festival qui s'appelle Performissima. C'était quoi le besoin? Pourquoi faire un festival de performance aujourd'hui?
Oui, alors effectivement, depuis un an avec Stéphanie, on a commencé un ping-pong d'idées et des belles réunions au sein de son bureau, parce que toutes les deux, on s'est rendu compte du manque de la performance en tant que telle, qui nous intéressait au sein du panorama parisien et français, c'est-à-dire sur les territoires parisiens et des l'Île-de-France, où on arrive à compter à peu près 270 théâtres une panoplie de spectacles de théâtre et de danse. Mais effectivement, on avait envie d'initier quelque chose de nouveau et de revenir effectivement à des formes propres aux années 50, 60, 70. Et c'est à partir de ces moments magiques d'échange avec Stéphanie que nous avons commencé. Nous sommes donné les pouvoirs d'imaginer des nouvelles expérimentations, et c'est pour ça que c'est comme ça que Performissima est né dans nos idées petit à petit.
Après je reviendrai sur le Centre Wallonie Bruxelles de façon plus générale, mais je sais pas ou Stéphanie ou Katerina qui veut répondre à cette question, mais comment va se dérouler ce festival? Quel est son rythme?
Je tue. Mais Katerina a prononcé un mot qui, pour moi, entre guillemets, j'anticipe sans doute la future question, hein, définis-le et à la fois le centre et effectivement le festival, c'est qu'il s'agit d'une expérience. Donc l'envie était effectivement d'expérimenter des nouvelles modalités de monstration, des nouvelles modalités également de rencontre d'un public. Et donc ce festival va se dérouler d'une manière assez hérétique, puisque on est effectivement sur une temporalité étendue, distendue, liquéfiée. On est sur 12 heures de performance. Et on est en effet également sur une approche du public qui ne le convie pas à voir un spectacle précisément, mais qui le convie véritablement à arpenter les espaces dans lesquels vont surgir des choses. Donc l'envie, c'était effectivement d'amener le public à une posture qui soit véritablement celle de l'expérimentation et celle également d'une délibération, puisque réside dans le principe même de Performissima une véritable volonté de le contrarier en tant que public, puisqu'en effet, personne ne pourra voir l'intégralité de tout. Personne ne pourra voir, entre guillemets, l'ensemble des performances qui sont agrégées, puisque chacun aura à choisir, entre guillemets, entre des trames, entre des possibilités. Et donc, au même moment, vont se dérouler des performances dans différents espaces, dans les nôtres, mais également, par ailleurs, dans les espaces de notre voisin.
Est-ce que vous pouvez peut-être décrire le Centre Fanny Bruxelles pour qu'on comprenne où ça aura lieu ?
Généralement, quand je le définis, j'aime bien le définir à nouveau. Hein. Je suis très antithèse. J'aime le définir. Nous ne sommes pas un musée, nous ne sommes pas un centre culturel. Nous ne sommes pas, effectivement, à proprement parler, uniquement d'un centre d'art. Je pense véritablement, et c'est marrant puisque vous le nommez un Centre Wallonie-Bruxelles. Pas tort. Pas tort, c'est une option parmi d'autres. En tout cas, de plus en plus, effectivement, il est nommé, on le nomme le vaisseau, et j'aime cette idée. J'aime cette idée, effectivement, de vaisseau pirate. J'aime cette idée, à un moment donné, de xéno-entité dans le profil d'institution artistique et culturelle, effectivement, qui réside dans nos sphères. Je pense et je virtualise, et on essaie de le matérialiser, le vaisseau, effectivement, comme une xéno-entité qui a une vocation véritablement expérientielle. Et conformément à cette vocation expérientielle, on expérimente effectivement différents dispositifs. Performissima en est un, il y en a d'autres, mais ça traduit cette volonté de penser à un moment donné à un endroit qui soit pas celui du prescriptif, qui soit pas celui du magistral. Le centre n'est pas un lieu où, entre guillemets, on vient uniquement, j'espère, pour être satisfait, pas plus qu'on ne viendrait pour voir, entre guillemets, de belles et nobles choses. C'est un lieu où on vient à un endroit, effectivement, avec l'envie d'être bousculé. J'ai une tendance à l'élaboration de néologismes. J'aime à penser le vaisseau comme un espace de frictionnalisation. Et pas seulement de fictionnalisation, mais vraiment de frictionnalisation, avec aussi un espace qui donne une visibilité à des régimes de corps, à des corporalités elles-mêmes, à des régimes de discours qui soient fondamentalement, effectivement, différents.
Parce que je pense aux auditeurs et auditrices de Du Radio qui, au malheur, n'auraient jamais mis les pieds dans le vaisseau. Est-ce que concrètement, il y a une salle de spectacle ? C'est-à-dire que, après, je vais vous faire parler, chers artistes, ne vous inquiétez pas, mais concrètement, où est-ce qu'on va voir les performances de Performissima ? Où est-ce qu'elles vont se dérouler ?
Eh bien, on va les voir partout et précisément.
Mais ça veut dire quoi, partout ?
Eh bien, justement, partout, c'est joué à un moment donné aussi sur une désassignation des espaces. C'est aussi se dire qu'au théâtre peut se dérouler autre chose que du théâtre. C'est aussi considérer que le cinéma est un territoire dans lequel peut se dérouler d'autres choses. Dans le cinéma, on avait eu notamment une séance de désensorcellement de la finance internationale. C'est dire. Donc, l'envie, c'est vraiment de faire en sorte que les espaces soient aussi repotentialisés. Il y a cette volonté, à un moment donné, de se dire, certes, il y a un endroit qui est bien nommé théâtre, donc rassurez-vous, vous le trouverez. Il y a un nommé qui est bien nommé cinéma, il y a un endroit qui est bien nommé chiottes. Tout ça, c'est nommé. Mais par ailleurs, on peut les repotentialiser. Et l'envie, c'est d'amener aussi les spectateurs et spectatrices, qui sont véritablement des expérimentateurs en l'occurrence, et les artistes, à cohabiter dans ces territoires qui sont effectivement des territoires désassignés de leur vocation initiale. Et donc tout, et vraiment quand je dis tout, c'est l'intégralité des espaces, sont mobilisés comme potentiels territoires effectivement, à partir desquels des gestes surgiront.
Alors justement, Lou, Gérald, Félix, vous êtes là parce que le 18 octobre, vous allez performer. Alors Lou, visiblement le mot vous dérange un peu, je ne sais pas. Je voulais savoir ce que toutes les trois, enfin vous tous quoi, vous alliez faire, à quel moment de la journée et comment ça s'était passé finalement. Est-ce que vous avez proposé, écrit quelque chose pour, est-ce qu'on peut dire écrire d'ailleurs, penser quelque chose pour ce moment-là, ou est-ce que vous proposez quelque chose qui existait déjà? Alors je ne sais pas qui veut, bah, Félix Beauregard, alors, allez-y.
Alors, moi, je vais présenter une performance que j'ai déjà montrée, mais qui va être un peu modifiée et qui s'adapte évidemment au contexte de démonstration qui est le vaisseau, donc, et qui est une performance qui s'appelle Chasse a Drawing Lab, que j'avais montrée à la collection Lambert à Avignon, et qui est une interaction entre mon corps et une structure métallique. Je voulais. Donc peut-être pour rebondir parce que sur et le terme d'écriture, est-ce qu'on peut dire écriture?
Oui, oui, faites.
Et sur les définitions que Katerina et Stéphanie ont données de la performance comme quelque chose qui ne serait pas reproductible, oui. Je voudrais préciser que selon moi, le lien qu'on peut faire entre danse et performance, il est peut-être à cet endroit-là que le travail performatif est nourri de tout un tas de qualités d'expérience qui va permettre au spectateur d'être en contact avec un événement. Et là, il y a peut-être une autre définition de la performance, c'est-à-dire qu'il y a des arts qui sont du côté de la représentation et d'autres qui sont du côté des événements, et la performance, je pense, devrait toujours être du côté de l'événement. Et pour être du côté de l'événement, il y a un travail en amont, il y a de la répétition, des fois. Ce qui ne veut pas dire, ce qui n'empêche pas, le moment présent. Ce qui n'empêche pas que ça se passe qu'une fois, mais ça, c'est un qu'une fois qui est nourri d'une épaisseur temporelle, etc. Et donc, qui implique parfois une écriture.
C'est ça. Gérald, peut-être ?
Oui, d'accord. Je veux bien continuer à redéplier la question de la définition, comme ça je vous dis aussi ce que je fabrique.
Mais je pense que ça va être un peu le fil de cette émission de toute façon.
Bah oui, mais c'est, en fait c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement ces peut-être 10-15 dernières années, en tout cas en tant que pédagogue dans des écoles d'art, je vois souvent cette espèce de fusion entre toutes ces pratiques. Donc tu as des étudiants et étudiantes qui ont envie de faire de la danse et puis d'un coup on va leur dire bah, regarde Jean Apané, tu vois, puis je suis, en fait ça n'a rien à voir, c'est même pas la même histoire culturelle, je veux dire, ça vient pas du même endroit. Et du coup pour moi je reste un peu fixé sur cette histoire de terrain de travail qui me fait penser que dans un théâtre, donc moi j'accompagne beaucoup de chorégraphes, je fais de la musique pour des chorégraphes, souvent, et j'ai toujours cette impression que le théâtre est comme une sorte de parenthèse spatiale dans une logique de ville politique, par exemple, comme si c'était une sorte de bulle posée qui par moment parfois semble presque s'abstraire des règles politiques du monde au profit d'autres règles qui sont parfois des régimes politiques qu'on n'a pas envie de soutenir, par exemple. Et en fait, je pense que moi j'ai étudié au Beaux-Arts à Cergy et j'ai jamais distingué l'espace de travail de la ville. J'étais toujours le même corps du RER au studio, au plateau de la scène nationale de Cergy. Pour moi, c'est un terrain ininterrompu mes identités. Et mes choix de performance politique, comme on dit, et les choix de, comme vous dites, de pratique ou de, tu as dit, de, pas de momentum, mais d'événements,
oui.
de quelles sont les conditions d'apparition de l'événement, pour moi, apparaissent dans une logique presque quotidienne. Et après, c'est à moi le degré de psychose et de combien de degrés de poétique j'utilise pour décoller le réel de lui-même. Mais, donc pour moi, ce qui est important dans la performance, c'est vraiment cette histoire de terrain, c'est-à-dire qu'on se déconnecte pas d'un coup d'une logique global, enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas plus étendu que le lieu culturel en lui-même. Donc là, en ça, je rejoins l'anti-institution, etc. En ce qui concerne mon travail personnel, moi, quand on a parlé avec Katerina la première fois, il y avait une question un peu de faire aussi une sorte de point, comme où on en est aujourd'hui dans la performance, qu'est-ce qui se passe, qui est là, qui sont les nouveaux corps, les vieilles, comme moi, des gens comme ça. Et du coup, il y avait un peu une histoire de paléontologie. Moi, je n'ai jamais fait de monographie, par exemple, des trucs comme ça, parce que je fais de la musique et ça, on ne fait pas ça dans la musique. On fait des greatest hits, mais aujourd'hui, la playlist est trop forte. Donc, c'est plus la même logique. Mais j'étais plutôt sur une idée d'avoir envie de ramener un peu des questions au même endroit. Et donc, du coup, comme on en parlait avant l'émission, je suis en transition. Donc, du coup, je deviens une autre personne. Donc, j'ai commencé un projet qui parle principalement de deuil et de transition. C'est une collection de pièces. Donc, ça s'appelle The Transition Pieces. Et ça se découpe en plusieurs champs. Et il y a l'idée de comment est-ce qu'on fait le récit d'un corps qui se transforme, mais c'est, qui regarde aussi un monde qui se transforme. C'est-à-dire dans une réalité de géopolitique qui change minute après minute, dans une réalité de d'évolution scientifique, de progrès médicaux qui évoluent tous les ans, où on a un rapport à l'esthétique qui change. Comment est-ce que moi, je peux faire un récit, une sorte de journal de l'intérieur de mon corps qui change avec, pourquoi pas, des hormones, pourquoi pas des opérations, pourquoi pas des changements de coupe de cheveux et autres questions plus philosophiques. Et donc, comment ça s'écrit en musique, qui est le partenaire le plus fluide et le plus élastique que j'ai trouvé aujourd'hui pour parler d'instabilité et de deuil et de choses qui sont, qu'on accepte de laisser partir. Enfin, qu'on accepte dont l'éphéméralité aide à comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans le désir humain qui est fragile. Et du coup, qui est émouvant. Voilà.
Merci pour le partage.
Avec plaisir.
Lou, qu'est-ce que vous allez présenter lors du festival Performissima?
Je vais présenter. Je réponds juste parce que ce que vous disiez sur la performance, c'est vrai que j'aime pas trop le mot, mais par rapport à ce que Félix.
Je rebondissais juste avec un peu. Enfin, par rapport à ce que vous dites, quand vous disiez, je sais pas ce que je fais à cette table, vous avez toute votre place à cette table, bien au contraire.
Mais plus au sens où, par exemple, quand Félix, tu dis, il y a l'événement et la représentation, mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est plus la question de plus la représentation, mais ça. Pour le coup, ça s'inscrit là dans un événement. Donc, on va dire que c'est un hybride des deux. Mais le projet que je vais développer le 18, c'est parti de. Je crois que j'ai commencé ça il y a 2 ans. Et ça fait partie de mon écosystème qui s'appelle What Remains, dans lequel. Enfin, c'était parti de ça. Maintenant, je dirais que c'est un peu sorti de l'écosystème, dans lequel, en gros, l'humanité, elle aurait disparu par une tentative. De Mark Zuckerberg de devenir immortel, et que lorsque c'est devenu open source par des hackers qui l'auraient récupéré et rediffusé, il n'y aurait plus assez de ressources pour tout le monde, et en gros l'humanité elle aurait disparu comme ça. Et mon projet il prend plein de pistes dans cet effondrement. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque les humains sont confrontés à ce collapse général? Et une des pistes possibles, c'était qu'il n'y avait plus de place pour enterrer les gens sur Terre à un moment, par exemple, ou qu'il n'y aurait plus de... J'ai commencé à penser à d'autres espaces pour se recueillir, à d'autres endroits pour se recueillir, comme en ligne ou dans l'espace. Et du coup, j'ai commencé à une sculpture en 3D, qui est un lieu que j'ai imaginé, qui soit un cimetière digital ou dans l'espace. Et ça, du coup, je l'ai créé une première fois, je l'ai montré comme une sculpture. Et je l'ai avancé et j'en ai fait une performance il y a quelques mois, la fête d'anticipation, où j'ai du coup préparé cette balade dans ce cimetière, on va dire. Et le son, il fait rentrer dedans et puis il accompagne. Et il y a plein de souvenirs à travers le son et des voix et... Et la musique qui guide dans cet espace.
Pardon, je vous coupe, c'est une déambulation au casque?
C'est du son, ouais. C'est du son et image.
Mais comment le public est-il accompagné là-dedans?
Par le son.
Mais c'est du son qui est diffusé, qui est le même pour tout le monde ou qui est dans les oreilles spécifiquement?
Là, ce sera en haut-parleur normalement, c'est dans toute la pièce. Du coup... Si je comprends bien, aussi les autres performances, elles auront le son de ma performance. Mais voilà, là, c'est parce que c'est à cet endroit-là et c'est comme ça. Mais c'est un projet évolutif, on va dire. Et quelques mois après, j'ai décidé que ce serait un projet qui s'ouvre dans la mesure où il est daté à 2023 avec un tiret, et parce que je continue de le changer. Et c'est aussi un film, ça s'appelle c'est To Whom It May Concern, There Will Be Tears in My Hennessy. Et ça fait partie c'est un projet, je le vois sur le deuil, où chaque scène se rajoute et chaque moment se rajoute. Et je montre parfois un bout dans une sculpture où là, en performance, je prends un bout. Et là, maintenant, il fait comme 30 minutes, mais là, je vais prendre un bout pour les 18. Et c'est des espaces qui sont liés. Moi, j'ai perdu ma sœur l'année dernière. Et c'est des espaces et des sons et des souvenirs qui sont liés à des choses qu'on a pu vivre ensemble. Donc, c'est beaucoup des allers-retours entre un futur de recueil et en même temps des souvenirs. Et c'est un peu l'intersection de tout ça. Et du coup, c'est une nouvelle version de ça que je vais faire le 18.
Ok, merci. Stéphanie, vous nous avez réagi, vous vouliez, avant qu'on fasse une petite pause.
En fait, la réponse de chacune et chacun sur la question qui était « qu'est-ce que vous allez présenter ?» entre guillemets, permet, je crois, déjà d'appréhender aussi un des protocoles du festival, qui est celui qu'effectivement, les artistes, et ils sont nombreux et nombreux, ont été invités aussi à enfreindre, entre guillemets, leur propre protocole, puisque elles et ils sont invités à présenter pas seulement un extrait, mais ce que vient de dire Lou est important, sont aussi des pièces qui sont itérées, sont également des matériaux qui, à un moment donné, dans le cadre de Performissima, sont malmenés à l'endroit, entre guillemets, de leur propre trame dramaturgique, parce que fondamentalement, elles ont à s'inscrire dans une agrégation qui elle-même fera pièce, qui elle-même fera acte. Et donc là, une des spécificités du festival est également pas seulement la contrariété à l'endroit du spectatrice et du spectateur, mais aussi à l'endroit de l'artiste, qui est de dire, vous devez accepter de céder à un moment donné, d'itérer, d'adapter, de changer la pièce. Pour, à certains endroits, on aura effectivement des projets très performatifs au sens propre, puisqu'il y a une différence entre performer et la performance. Ce n'est pas la même chose. Et donc là, on a des régimes également d'intervention qui sont très différentes. Pour certains, il s'agit effectivement d'une adresse à l'endroit de dramaturge, à l'endroit de spectacle, de théâtre, entre guillemets, qu'on démantèle. Et dont on extrait à un moment donné ce qu'on a considéré comme étant le moment de climax et le moment qui incarne une impulsion performative. Et donc, c'est effectivement une 12 heures globale, spectaculaire au sens de spectacle, d'esthétique au sens du sentir, qui sont effectivement constituées à partir de l'itération de tous ces morceaux.
Je comprends que Performissima est une performance en soi, finalement. On va reprendre après une petite pause musicale et pas n'importe laquelle. Gérald Curion, vous avez sorti aujourd'hui un titre qui s'appelle Demon Master. Est-ce que je prononce bien ?
Oui, Demons, parce que c'est Demon Master, c'est le nom du fichier, parce que c'est le master que je vous ai envoyé. Parce
quel est le titre de ce morceau ?
Demons, juste Demons. Ouais.
Alors, est-ce qu'on pourrait l'écouter ? Merci.
Say too much, and in the lush haven, truth decays, too hard to face.
Think I'm going crazy, and boy.
Rebonjour si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur du radio, parler de performance et du festival Performissima qui se tiendra donc le 18 octobre au Centre Momani Bruxelles. Nous sommes toujours avec Félix Touzalin, Lou Faurou, Gérald Curdian, Stéphanie Pécourt et Katharina Zevola. Ils n'ont pas, ils n'ont pas fui pendant la belle chanson, musique, morceau de Gérald et nous sommes forcément contents et contentes. J'avais une question pour vous les artistes, donc Félix, Lou, Gérald, je voulais savoir, enfin vous avez commencé à exprimer dans la première partie de l'émission un rapport à l'intime, à ce que vous faites. Je voulais savoir si c'était forcément personnel, ce que vous mettiez sur scène, dans l'espace, ce que vous écriviez, pensiez. Est-ce que c'est toujours lié à un moment clé de vos identités ou de vos vies ou alors ça peut être quelque chose de beaucoup plus global, une réaction à la société. Gérald, tu parlais de la politique, par exemple. Lou, tu parlais du deuil. Tu parles d'un deuil très précis, mais ça peut être le deuil de façon globale. Voilà. Quel est votre rapport à l'intime et au personnel dans vos travaux à chacun, chacune ? Lou, je vois que tu as pris le micro. Vous avez pris le micro, pardon. Je vous laisse parler.
Je dirais que c'est une question que je me pose beaucoup. Parce que parfois, ça va être très intellectuel ou conceptuel. Ah, je vais travailler sur ça. Et je vais parler de ça parce que non. Et en fait, on veut que ce soit comme ça. Puis personnellement, je me rends compte que ça part toujours d'un endroit qui est en fait très personnel. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un équilibre constant entre les deux.
Ouais, en fait,
vous avez fini ?
Oui. Ouais, non, c'était un appel. J'ai vu ce regard comme un appel. Mais si tu veux finir, je t'en prie.
Non, je t'en prie.
Gérald ?
Non, c'est juste... à un moment donné, c'est plus personnel non plus. Je veux dire... on regarde en nous des choses qui sont des phénomènes collectifs aussi, et il y a un moment où c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur l'instabilité, le deuil, etc. sont des mouvements de recollectivisation aussi, où je pense que notre travail c'est justement de prendre un peu de distance par rapport à qu'est-ce que ça veut dire self, qu'est-ce que ça veut dire moi, qu'est-ce que ça veut dire je, qu'est-ce que ça veut dire personnel, qu'est-ce que ça veut dire intime. Quand on entreprend un travail artistique, l'intimité pour moi elle est vraiment temporaire. Enfin, je sais pas.
Mais en même temps, elle sert à... Parce que comme tu dis, moi, je vois comme un Sims dans une grande simulation. Et que s'il y a un truc qui m'arrive à moi, ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais du coup, je pars de moi comme un outil, comme un matériau commun. Mais ça reste quand même... Il y a quand même mes vraies émotions parce que, elles sont là pour faire les choses. Et puis après, ça parle quand même de quelque chose qui est collectif. Donc, je trouve que c'est un aller-retour constant.
Bien sûr. Et la responsabilité, c'est important aussi. Le fait de pas se noyer dans justement l'intimité aveuglante, etc., mais d'être responsable, comme on dit, de se dire, vas-y, je vais plonger profond, je vais aller voir l'obscurité, les choses sombres, etc. On connaît cette mythologie romanesque, un peu comme ça, mais elle est réelle, en fait. Je veux dire, c'est vrai qu'on se pose des questions beaucoup... Enfin, en tout cas, les gens qui m'entourent et moi-même sont des personnes qui se questionnent énormément sur qui ils sont en tant que personne, en tant qu'intimité, en tant que corps, en tant que... plein de choses, mais pour moi il y a quand même à un moment donné il y a la question de la responsabilité, c'est-à-dire tu prends le sous-marin mais tu perds pas la tête dans le sous-marin, le but c'est de rester, tu travailles pour le monde en fait, dans le monde et vers le monde.
Il n'est pas obligé de se voir, genre.
Voilà,
moi je l'ai dit là, mais ça pourrait parler du deuil puis sans que ce soit sur mon deuil, en fait c'est sur le deuil quoi, et ça je suis assez d'accord. Faut que ce soit un truc, enfin je trouve que c'est plus fort quand ça vient d'un endroit qui est un peu personnel quand même, mais que ça puisse être communiqué et reçu sans cette information-là ou sans cet aspect-là.
Oui, moi, je vous rejoins pour coller à la question sur personnel, pas personnel. Je crois que la performance réinvente le temps et l'espace. Et dans cette notion de temps, il y a la notion de mémoire. Et là, on l'entend dans ce que vous venez de nous raconter, le fait de convoquer des souvenirs d'un être cher perdu, quand tu nous dis mon corps il est le même quand je suis à tel endroit, à tel autre, finalement il y a une sorte de filiation entre les temps, et je crois que c'est très fort ça, le fait que le corps il s'érige d'abord comme une mémoire. Et moi dans mon travail performatif j'essaye de convoquer ces mémoires, des mémoires qui sont parfois archaïques et donc qui nous appartiennent à tous, donc c'est à la fois moi, pour rester sur la question, à la fois des expériences personnelles, mais qui sont partageables et qui sont logées dans des muscles profonds, donc qui sont des lieux de dépôt en fait d'une mémoire qui presque nous dépasse des fois, qui est historique. Et dans cette conception, alors ça peut-être vous allez trouver que ça part un peu partout, mais moi c'est vrai que ça me travaille dans la manière dont je construis mes pièces. Cette question de la mémoire, c'est une mémoire personnelle, mais c'est une mémoire collective en tant qu'elle est une histoire aussi. J'aime beaucoup le texte de Benjamin sur la marge de l'histoire.
J'adore ce texte.
Et sur le fait que pour lui, il y a des moments privilégiés. Ouais. Plutôt que l'idée d'un progrès, d'une histoire qui irait vers le progrès, il lui préfère des moments privilégiés qui, pour moi, pourraient être rapprochés de ce que c'est qu'une performance, ces moments privilégiés. Et ces moments privilégiés, ils ont la caractéristique de se désolidariser ou en tout cas d'abandonner les moments de domination, en fait. Les endroits où il y a domination, et ce, quelle qu'elle soit. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, non, mais en tant que la performance est un instant privilégié, je pense qu'elle est éminemment personnelle et éminemment une émotion collective.
Vous, Félix, il y a une différence majeure entre vous trois. Lou, vous faites du son et de l'image. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Gérald, vous faites du son, mais pas que.
Ouais, plus, en fait, vraiment plus de la musique, j'insiste, parce que le son, ça a un côté... Enfin, en tout cas, pour moi, ça rentre dans des expérimentations. Non, c'est au contraire, c'est très chouette, mais ça a un côté un peu expérimental, de pratique qui touche vraiment à la fréquence, à la diffusion, etc. Moi, j'écris des balades que je mets en contexte dans des performances où je raconte des choses.
Vous êtes musicienne.
Ouais. Enfin, en tout cas, j'utilise le rôle des musiciens-musiciennes comme une porte d'entrée pour raconter d'autres trucs. Enfin, je me sers des chansons pour raconter d'autres trucs.
En tout cas, vous n'êtes pas danseuse.
Eh bien, figurez-vous que si, puisque c'est ma formation initiale. Voilà. Et dans la pièce, là, je danse un peu, mais je ne sais pas si le 18, je vais danser, j'ai un peu peur. Un petit peu.
Non, finalement, le lien entre vous trois, il est beaucoup plus proche que ce que je pensais, finalement. J'ai la place, tiens, on apprend des trucs sur du radio. Bah oui, parce qu'il y a ça quand même dans la danse. Il y a quand même un investissement du corps qui est très direct. Vous êtes au plateau, en tout cas, ou dans le musée, ou dans la galerie, ou dans l'espace où vous dansez. Félix, j'aimerais bien que vous parliez un peu de ça, pour le coup, de la façon que vous avez d'être en mouvement sur scène. Parce que je voudrais rentrer dans le plus dur de ce que vous faites concrètement dans vos performances chacune, avant de reparler du festival et de la pièce que vous allez présenter là, le 18 octobre. De façon plus générale, à quoi ressemble votre travail?
Moi, je dirais que ce qui spécifie ma pratique, c'est la présence du métal, quand même. C'est ça qui singularise un peu mon approche du mouvement. Et donc, quand je donnais une définition de la performance en introduction, sur le fait d'un intérêt pour comment on montre le faire, moi je convoque très souvent dans la construction de mes performances des choses qui se passent dans l'atelier quand je fabrique le métal. Et donc il y a une sorte de porosité des pratiques, parce qu'en tant que fabriquer un objet en métal, une sculpture, c'est du faire. Et donc c'est performatif déjà.
Félix,
pour moi.
Vous pouvez rester un peu là-dessus, ça veut dire quoi fabriquer du métal?
Ça
paraît évident, mais je suis pas sûre.
Non, mais c'est travailler la matière, et donc il y a différentes manières de la travailler. Ouais. Et c'est là aussi la richesse de ce matériau, c'est-à-dire que on peut le fondre, on peut le tordre, on peut le tirer, on peut le laminer, on peut le frapper. Donc il y a tout un tas d'opérations qui sont exercées dessus. Et peut-être expliquer pourquoi le métal, à deux titres. Le premier, c'est que je crois qu'il a à voir avec une histoire de la domination. Je parlais de Benjamin tout à l'heure et ses instants privilégiés, mais une histoire de la domination parce que c'est l'or des puissants, c'est l'acier des armes. C'est aussi le matériau des nouvelles technologies. Et que tout ce paysage technique, en fait, ça raconte les matériaux, les énergies, les mécanismes. Ça a à voir avec le corps, avec nos modes de vie, nos formes de vie. Donc le métal pour moi témoigne de ça, et c'est aussi sa dimension plus métaphysique, en tant qu'il est fusible et qu'il se fond et qu'il est trouvé dans la nature souvent de manière agrégée en fait, à d'autres alliages en fait, il est allié. Et pour moi, il y a là une sorte de manifeste d'un retour d'un état archaïque, quoi. C'est-à-dire, par exemple, dans la Genèse, Dieu crée par le langage, par le terme bara, qui est séparé. Et dire, c'est-à-dire vraiment nommer, c'est séparer les choses, c'est les distinguer. Et le métal raconte cette pré-vie, cette indistinction en ce qu'il peut justement voilà, se mélanger et qu'il est tout le temps un mélange. Et ce rapport au langage, pour moi, il est très important parce que ce qui sous-tend toute performance au-delà de la danse, parce que les gens, quand ils me voient, imaginent que je danse, pour moi, c'est un peu différent, mais ce qui sous-tend la danse et l'installation métallique, c'est la poésie, c'est-à-dire une écriture poétique du langage. Je parlais des mémoires tout à l'heure, le fait qu'on a des mémoires en nous, dans nos corps, ces tissus. Ils témoignent de quelque chose qui relève de un peu de l'indicible, c'est-à-dire que c'est presque du préverbal. Cette mémoire des muscles, cette mémoire du corps, elle est du côté du préverbal. Et c'est quoi le préverbal ?
C'est une question.
C'est ce qui est un peu informe. C'est ce qui est un peu mal dégrossi. Et le poétique a à voir avec ça, a à voir avec une langue.
Gérald réagit.
Une langue qui est malléable, quoi, qui n'est pas une langue des usages.
Gérald ?
Je dois réagir à ma réaction.
Non, pas pour,
C'est ça.
non, mais en fait, en réagissant à votre réaction, vous allez me raconter comment vous, quel est votre processus de création et comment vous arrivez à avoir comme médium finalement la musique.
D'accord. Alors, je réagissais.
Je crois.
Oui, oui. Non, mais parce que moi, ça m'intéresse vachement cette hiérarchie du langage et des sous-langages et de qu'est-ce qu'on considère comme étant forme ou pas forme. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en dessous du langage et ce que je redis sur pourquoi je dis je fais de la musique, c'est que ce que j'aime dans la musique, c'est que c'est une forme de langage informe,
oui.
Qui donne beaucoup d'informations au corps et qui fait passer par beaucoup d'états, et notamment par rapport à la mémoire. Alors, je suis hyper fan de la mémoire, donc il y a 2 ans, j'avais fait pour expliquer un peu mon travail, je fais des recherches depuis une petite dizaine d'années, on va dire, sous le nom de Hot Bodies.
Merci.
Je fais des recherches qui touchent à la... D'abord, la première question, c'est quel est le rôle de la musique dans les luttes militantes ? C'est-à-dire à quoi ? Pourquoi on fait des chorales féministes, mais aussi de la musique club ? Pourquoi le club est un sanctuaire pour certains corps et pas d'autres ? Quelle musique stimule quel type de jouissance ? Est-ce que la jouissance musicale viendrait d'une ligne de jouissance calquée sur la sexualité androcentrée ? Enfin, des personnes avec des testicules, etc. Enfin, comment est-ce que tout ça se fabrique ? Qu'est-ce que les luttes sexpositives nous apprennent du plaisir esthétique, qu'est-ce que le travail du sexe nous apprend de la consommation et du plaisir de l'objet culturel et comment est-ce qu'on fabrique nos identités par rapport au désir. Donc ça c'est le champ de recherche de départ. Mm-hmm. Et donc pendant plusieurs années j'ai dirigé des chorales queer mais en tout cas c'est un projet que j'ai fait beaucoup donc, qui s'appelait Hot Body Squire. J'ai organisé des fêtes pour mettre en avant des artistes notamment dans les champs sex workers gays et puis post-porn, enfin sexe positif, mais aussi des musiciens musiciennes que je trouvais juste pas assez exposés. Et puis à côté de ça, j'ai ce travail de journal de performance qui sont des sortes de journal un peu on sait jamais vraiment si c'est vrai ou si c'est faux, mais peu importe, qui parle toujours d'une rencontre avec une expérience. Donc il y a, je sais pas, 4 ans j'avais fait ou 5 ans j'avais fait un projet qui s'appelait Hot Body Stand Up, qui était une sorte de stand-up bizarre où je racontais comment j'avais découvert l'éco-sex auprès de Annie Sprinkle et Beth Stevens en Californie. Il y a 2 ans, j'avais travaillé sur la mémoire traumatique parce que j'ai recouvré une mémoire traumatique dans ma vie et du coup c'était très intéressant justement cette rencontre avec le sous-langage de mon corps, c'est-à-dire que d'un coup j'avais des réactions depuis mon système nerveux, donc depuis une langue que je ne connais pas, enfin pour laquelle j'ai pas d'outils, je peux pas mettre de mots, je peux pas mettre d'images, c'est une réaction sensorielle. Et donc la danse, la musique sont des, encore une fois je répète, des partenaires assez privilégiés pour entrer en conversation avec ça, et en même temps assez ingrats parce que c'est maintenant et c'est pas après, enfin genre c'est le temps de la danse et après ben tant pis pour toi et t'avais qu'à le vivre. Donc j'ai fait une sorte d'opéra qui cherchait avec des chansons et des IA, enfin en tout cas un travail de d'IA sur le langage musical, à revivre ces états-là et à les transmettre, à les rendre extime, pour reprendre ouais. votre question sur l'intimité. Et donc voilà, et donc je me suis donc au travers de ces chemins-là, et j'arrive du coup à Performissima, je me suis aperçu que la bon évidemment je suis soucieuse des luttes militantes, mais pas parce que c'est stylé, juste parce que c'est mon parcours en tant que personne qui a des choses à vivre et des affronts à affronter au quotidien fait que je suis en colère à plein d'égards. Et donc du coup je me suis aperçu que les luttes militantes, quand elles étaient strictement dans le langage, et je crois que c'est pour ça aussi que je faisais un peu comme ça en écoutant Félix.
C'est la radio, hein, ça on voit pas tellement.
Oui, je fronçais les sourcils en bougeant la tête de gauche à droite comme ça, voilà, avec une petite moue à la fois mignonne et un peu antipathique comme ça.
Vous décrivez vachement bien. Ça.
Merci. Et je me suis aperçu qu'elles étaient limitées, en tout cas, enfin en tout cas que le langage, enfin que le fait de toujours formuler, c'est-à-dire on est anti ça, on est pour ça, etc., faisait que les personnes me répondaient depuis un endroit de langage. Donc on va me dire je suis d'accord avec votre point de vue militant, ou je suis pas d'accord, je trouve ça communautariste, ou je trouve ça trop niche, ou des choses comme ça. Puis ça m'intéressait pas beaucoup. Donc je me suis aperçu que j'avais envie de travailler à une forme d'abstraction queer, un truc comme ça, c'est-à-dire d'essayer de comprendre s'il y avait une possibilité de rentrer en communication par des choses abstraites, et donc du coup sous langage, dans le son, dans l'état du corps, peut-être même dans des vides, dans des endroits, dans des absences d'action, des manques, des endroits qui manquaient à un certain type d'écriture du spectacle. Et donc du coup, voilà, les Transition Pieces, donc les pièces que je présente là, c'est des collections de petites pièces, donc comme je disais sur la question de la transition, mais au sens très large, donc je réécris les métamorphoses de vide, mais aussi je tourne autour d'une lettre que ma grand-mère m'a écrite, où elle ne se rappelle pas exactement très bien de son enfance. Enfin, j'essaie de me déplacer comme ça autour de la question de l'instabilité, pour prouver justement que c'est entre le langage que les choses se déplacent, pour moi. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est absolu, mais en tout cas, c'est ça que je cherche. Et donc, il y a aussi l'idée de recomposer à chaque fois les pièces en fonction des invitations. Donc, je vais faire, je ne sais pas, Performissima, je vais faire le chant 1, 12, 14 et 22, mais à l'autre fois, je vais faire le 28, le 30 et puis trois fois le 1, parce que genre, c'est important.
Voilà. J'allais passer la parole à Lou, mais Stéphanie, vous me demandez.
Non, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que Gérald vient de dire, effectivement. Une des ambitions de la saison qu'on a mis en œuvre cette année résidait notamment effectivement en cette phrase assez limpide et pour moi effectivement extrêmement puissante de Walter Mignolo, qui était « contribuer à les désobéissances épistémologiques ». Dans ce que vous venez chacun de souligner, il y a effectivement cette question qui est fondamentale, qui est à un moment donné, par la performance, amener à relégitimer et à valoriser des modes d'ontologie, des régimes d'ontologie, mais également des herméneutiques qui soient des herméneutiques autres que celles effectivement rationalistes et de facto effectivement occidentales qui nous sont imposées. Comment sortir, j'ai resté cette phrase de Korbisky, la carte n'est pas le territoire. Au-delà de la carte, il y a effectivement toute une série de chemins à arpenter qui sont oblitérés par une modélisation, et la carte est une modélisation, le langage est une modélisation. Les limites de mon monde sont définies par les limites de mon langage, Wittgenstein. C'est vraiment ça, effectivement, qui approchait également au travers du festival, et la raison pour laquelle ces artistes, et vous en êtes, je trouve, l'incarnation extrêmement idéale, typique, sont des artistes qui travaillent un endroit qui est vraiment celui d'esthétique au sens de l'art du sentir. On est dans une herméneutique qui se place à un endroit qui est véritablement pulsionnel. Quand on entend le son de loup, c'est quelque chose de primal. Quand on entend les mélodies, et c'est ton côté flair bleu, on est à un endroit d'une poésie, effectivement, par-delà le mot, par-delà le langage, par-delà les cartographies, par-delà, effectivement, l'administration rationnel des choses. Et c'est ce à quoi tend, je crois, fondamentalement le festival, et ce à quoi tend également les expérimentations qu'on tente au sein de notre vaisseau.
On va en parler plus encore, mais d'abord, Lou Fourou, je vous repasse la parole avec cette question que j'ai posée à Gérald et à Félix sur est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quel est votre travail et comment vous pensez votre art finalement.
C'est une dure question.
Je sais. Mais est-ce que, alors peut-être que je vais la poser plus simplement. Gérald dit oui, j'aime la musique parce que ça me permet d'accéder justement à ces formes de sous-langage. Félix dit il y a ce côté archaïque dans le métal et ça lui parle très fortement, je crois. Pour vous, comment c'est venu finalement ce rapport à... Je sais que vous malaxez un peu des jeux vidéo, vous êtes un peu hackeuse, enfin... Voilà. C'est, à quel moment vous vous êtes dit, ce matériel-là, c'est le mien, je peux m'en emparer pour faire quelque chose de plus grand que ce que c'est déjà? Est-ce que c'est plus clair comme ça?
Oui. Je peux.
Et après, on va vous écouter.
Je dirais que moi, j'ai toujours été très happée par des narrations. Et que ce soit en créant des BD quand j'étais très jeune, ou en faisant des dessins, ou en jouant aux jeux, beaucoup. Et en rentrant aussi dans les configurations des jeux dès très jeune, je jouais beaucoup avec la façon dont étaient mappés GTA ou les Sims, et je modifiais les possibilités du jeu. Genre, je pouvais tordre les bâtiments, les gens, et leur faire autre chose, des trucs comme ça. Donc ça, j'ai beaucoup joué avec ce genre de trucs.
Ça ne m'étonne pas du tout.
et avec les limites aussi du jeu, j'aime bien. Ouais, la map, elle s'arrête où? Et j'allais foncer dans le mur invisible de la map de plein de jeux, voir où ça s'arrête exactement, et puis jouer avec des trucs comme ça. Donc, je pense que ça part peut-être d'une plasticité cérébrale, un truc comme ça. Mais après, je suis allée plus vers la photo, donc j'étais beaucoup dans l'image fixe. Et de l'image fixe, je suis partie un peu plus vers l'image en mouvement. Et là, j'ai commencé à faire des films. Et en fait, avec les films, je trouve que c'est là que les champs, ils se sont ouverts, parce que j'ai pu coller, superposer les désirs d'histoire que je pouvais avoir avec des sources très différentes. Et en fait, j'ai beaucoup tourné autour de l'image, l'installation, la vidéo, et puis dessiner autour de certains sons, etc. Et finalement, j'ai l'impression que j'ai beaucoup comme tourné autour du pot et fait des images. Et avec, au final, la pulsion de tout ça, c'était le son. C'était ce que je pouvais ressentir avec la musique. La musique. Et en fait, l'impulse, à chaque fois, c'est la musique. Et sans forcément avoir de désir d'en causer ou d'en créer, mais comme si tout ce qui se manifestait par d'autres médiums, il venait d'un endroit, et c'est celui de comment je ressens le son. Et parce que, en fait, toutes les autres formes, j'ai l'impression que... Mais je les adore, hein, c'est celle que je pratique le plus, autre que le son. Mais le son, pour moi, c'est l'expérience la plus sincère et l'émotion la plus sincère que je peux avoir. Et je trouve que, en fait, c'est comme une émotion, mais en onde. Alors que les autres médiums, il y a plus de codes et de détours, quelque part. Enfin... pour moi, en tout cas. Et du coup, en utilisant beaucoup le son dans mes films, et je pense que la façon dont le son, il est très, très monté dans mes films, et il guide énormément la lecture du film ou de l'installation, c'est là que je suis allée un peu plus vers le son en tant que tel. Et du coup, on peut dire, moi, je suis DJ, en vrai, je sais pas. C'est comme quand je fais des images, j'ai aussi un peu l'impression que je suis DJ, parce que la façon dont je vais monter, superposer, créer les transparences, etc. J'ai l'impression que un son comme ce que je vais faire, par exemple le 18, c'est comme si je faisais du montage, mais c'est du collage-montage.
En parlant d'émotion en onde, j'adore. On va vous écouter, Lou. Alors, on va écouter LFRX, c'est ça?
C'est mon alias pour faire du son.
C'est votre alias de faire du son.
Ouais.
Okay. To whom it may concern, they self destructed me. Et vous m'avez dit que ultra rare, c'était pas la peine de le dire.
En fait, c'est.
J'aurais pu mettre. Le titre de ce morceau qu'on va lancer dans deux secondes.
Il y a plein de sous, parce que je l'ai sorti sur un EP qui s'appelle I Heard God Crying.
Parce que vous avez un label, n'est-ce pas?
C'est ça. Et j'ai sorti sur mon label, du coup.
Qui s'appelle
Fairies Records. Et j'ai sorti cette EP. Qui s'appelle I Heard God Crying, pour mon expo que j'ai faite en juin, qui s'appelle The Green Lights Have Now Faded, et chaque sculpture avait un morceau de l'EP. Et un des morceaux de l'EP, j'ai sorti sur Ultra Rare, qui est le label de mon ami Your Tracks, Inès, qui fait de la musique électronique. Et du coup, il y a un morceau sur cette EP, mais sinon l'EP est sorti sur mon label qui s'appelle Ferris. Okay. Et c'est un EP de edit mashup, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai créé les sons, mais c'est des montages entre des sons qui existent déjà. Et celui-ci, c'est un montage entre Ghost Main et Nicolas Britel.
Nous sommes de retour sur Du Radio, toujours pour parler du festival Performissima qui se déroulera le 18 octobre au Centre Wallonie Bruxelles. J'ai toujours autour de moi Félix Touzalin, Lou Faurou, Gérald Curdian, Stéphanie Bercourt et Katerina Zevola, qui est donc la commissaire générale du festival Performissima. C'est à vous, Katerina, que je vais poser cette question. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez construit ce festival? Pourquoi il y avait vraiment une volonté chez vous de passer comme ça un temps contraint, c'est 12 heures et pas une de plus, à présenter des artistes en même temps? Comment vous est venue finalement cette idée de construction un peu particulière?
D'abord, je suis super contente que déjà trois des nombreux artistes qui vont participer à cette expérience soient ici avec moi à 15 jours de l'événement. Voilà.
C'est combien de performances en tout?
Effectivement, alors on va avoir 56 performeurs qui vont prendre, oui, c'est assez géant, 56 performeurs qui vont prendre, qui vont occuper l'ensemble des espaces du vaisseau, ainsi que du centre culturel serbe voisin, qui a décidé nous mettre à disposition l'entièreté de leurs espaces et de s'associer à cette grande opération festivalière. Et effectivement, ce festival est né effectivement d'une envie, de celle de faire un état des lieux aussi de la performance. Qu'est-ce que c'est la performance?
Vous, Katerina, ce n'est pas la première fois que vous travaillez dans la performance, quelque chose qui vous anime, j'allais dire viscéralement.
Oui, assez.
on peut oser dire ça quand
qui
même.
Qui anime les jours et les nuits. Et effectivement, j'ai une expérience au sein des arts performatifs. J'ai travaillé au préalable dans d'autres institutions culturelles, telles que les Centres nationaux de la danse et au Palais de Tokyo, à côté de celles qui a été définie par le monde, la papesse de la performance, c'est-à-dire Vittoria Matarez, avec qui j'ai eu la chance et l'honneur de travailler pendant quelques années. Et l'idée d'imaginer un espace-temps dédié à cette discipline qui a été oubliée au fur et à mesure des années du champ des arts, cette sœur pauvre de l'art contemporain était au tout début des échanges que nous avons eus avec Stéphanie. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette date, donc le 18 octobre, pendant la semaine de l'art contemporain à Paris. Puisque, au fait, nous avons dédié un espace-temps à cette grande opération pour revendiquer une place, pour réimaginer les choses de manière collective et collégiale, en invitant un grand nombre des protagonistes de cette discipline, telle qu'elle est la performance, pour voir comment en 2024 on peut se réunir et on peut effectivement occuper un espace institutionnel, un espace démonstration artistique. Et je parle d'occupation tout comme nos parents et nos grands-parents l'ont fait dans les années 60 et 70 dans les universités pour parler et revendiquer une parole, une position, et bien ici,
redonner une place. Aussi,
redonner une place. Exactement. Et ici, ça sera fait par des corps en mouvement, des régimes, des corps différents qui vont effectivement habiter nos espaces pendant 12 heures, pas une de plus, ni une de moins, et donc un fragment de vie. C'est un fragment d'une journée dans son entièreté. Et les publics a aussi un rôle très important au sein de cette journée, puisque nous avons décidé aussi de revoir les rapports qu'il y a entre les spectateurs et les publics, c'est-à-dire normalement, aller voir un spectacle, c'est très normé. On achète un billet sur lequel il y a marqué une heure d'arrivée, la durée, les lieux. On arrive, on s'assoit, les lumières s'éteignent, on voit les spectacles. Donc, on consomme un produit artistique de manière plus ou moins passive, hein, selon les niveaux de fatigue, hein, parce que souvent on y va le soir et parfois c'est juste en temps des méditations devant cette œuvre. Applaudissements, la lumière s'allume, on part, on rentre chez soi. Ici, on voulait remettre tout ça en cause et effectivement expérimenter autre chose. Et ça, c'est effectivement grâce à Stéphanie qui m'a encouragée depuis les débuts à imaginer des choses différemment. Et ici, les publics, déjà par l'effet de cette simultanéité et succession, et cette accumulation performative qui va durer tout au long de ces 12 heures, déjà dans l'impossibilité de tout voir, et surtout les libres arbitres. C'est-à-dire que le public...
Le libre arbitre ou la frustration ?
Je dirais plutôt les libres arbitres.
C'est consanguin.
Parce que...
ouais. Consanguin ou consentant ?
De toute manière, quand on choisit de faire un parcours, de choisir quelle rue prendre pour aller d'un point A à un point B, et voilà, on est donc on est dans aussi l'attribution d'un pouvoir, un pouvoir de choix du spectateur et des spectatrices, chose que souvent dans la consommation artistique est souvent niée. On les voit aussi au sein des expositions, il y a une entrée, il y a une sortie, il y a un parcours. Ici, il n'y en aura pas. Ou bien, il y en aura, mais il y en aura une polyphonie de parcours différents qui peuvent être arpentés. Et au fait, on parle, j'ai parlé tout à l'heure d'accumulation, et au fait, c'est ça aussi, c'est par là qu'est né les néologismes de performissima, qui donc est une acrase entre performance et issima, donc les suffixes latins, qui effectivement nous amène vers une hyperbole, vers une accumulation des choses, d'images, de tableaux vivants, et on sera effectivement transporté au sein de cette grande et vaste polyphonie où beaucoup de choses vont se passer. Et où l'on espère on sera transformé.
Ça, j'en suis sûre. Comment vous avez construit, construit cette programmation très, très, très multiple?
Alors, effectivement, nous avons initié ces projets et aussitôt, nous nous sommes rendus compte de l'envie d'imaginer d'autres des collaborations et de créer des partenariats, chose que nous avons fait depuis les débuts. Et nous avons été contacter un certain nombre de centres culturels présents dans la capitale pour voir comment une opération conjointe pouvait être possible. Et c'est à ce moment-là qu'on a reçu l'accord et avec joie et enthousiasme de la part de le Centre culturel de Serbie qui nous a donné aussi l'entièreté de ces espaces, les centres culturels italiens, les centres culturels lituaniens, les bicolores, la maison du Danemark, les centres culturels helléniques, les Goethe Institute. Ils nous ont donné effectivement l'envie aussi, donc cet état des lieux de la performance en 2024 est devenu tout de suite une recherche sur tout ce qui se passe en Europe, mais pas que. Parce qu'effectivement, on a été voir aussi ailleurs.
Ça m'intéresse, on est allé voir. Parce que dans ce qu'on a dit au début sur la pauvreté de la visibilité de la performance en France, cette question de pouvoir aller en déniche ailleurs. Alors, peut-être c'est plutôt une question pour Stéphanie, après je voudrais la parole à Katerina. Mais comment on fait pour aller voir, pour aller dénicher? Quand je posais la question de comment vous avez construit la programmation, c'est comment vous avez repéré ces artistes? Nous en avons trois incroyables autour de la table, mais il y en a beaucoup plus que trois.
J'aimerais juste revenir sur un petit élément qui pour moi était effectivement important. À l'origine du festival, il y avait aussi une forme de coup de gueule.
Bien sûr.
Il y avait aussi une forme de... actuellement, tout le monde fait de la performance. Tout le monde se dit performeur. Il y avait aussi, pour le dire de manière un peu... Parfois, effectivement, on va voir des choses et on se dit, non, putain, c'est pas de la performance, non. Et donc, c'est effectivement aussi né de cette forme d'agacement. Pour moi, la performance n'est pas une discipline, elle n'a pas vocation à le devenir. Elle n'est pas à proprement parler un chant non plus, parce que précisément, elle a vocation à échapper à un moment donné à effectivement une affiliation lexicale, sémanticale, épistémique à n'importe quel autre champ. La performance peut émerger de différents espaces, de différents territoires. Donc l'envie de ce festival, c'était aussi dire à un moment donné, la question, ce n'est pas d'en faire... On s'en fout que ce soit le parent pauvre ou pas, parce qu'elle n'a même pas à être pauvre ou riche. C'est même pas l'enjeu. L'enjeu, c'est effectivement, à un moment donné, donner une parole, donner une visibilité à une autre forme de langage. Donner une parole à une visibilité à une autre ambition que celle, et j'en reviens effectivement à ce qui était évoqué au début, que celle d'une velléité testamentaire. J'aime l'esthétique de la ruine. J'aime l'esthétique, à un moment donné, c'est un concept que j'ai pas mal développé, l'esthétique de la charogne. Il y a quelque chose de l'ordre du charognard qui m'intéressait aussi. Et quand on en parlait du festival, l'idée, c'était pas dire on va donner les lettres de noblesse à la perf. L'idée, c'était dire donnons une possibilité, également avec des gens qui ne font pas de performance, mais qui font du théâtre, qui font de la danse, qui font autre chose, de saisir qu'à l'endroit, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Benjamin, à des moments de leur partition, il y a des essences performatives à extraire qui nous intéressaient. Comment on a repéré ces essences performatives? Je dirais comme toute personne qui arpente et qui se veut un peu lumière d'étrangeté. Plusieurs des artistes, on avait d'ores et déjà travaillé ensemble. Oui. Gérald, on avait travaillé à plusieurs reprises. Lou était effectivement dans la Biennale Nova XX. Okay. Mercedes Dassy est passée au centre également. Donc il y a eu d'une part effectivement aussi, et ça je crois que c'est important en tant que lieu, des fidélités, des envies de poursuivre à un moment donné des aventures avec des artistes dont justement le travail, le processus nous intéressait, dont au-delà, et là je rebondis sur ce que disait Katharina, à un moment donné, une expérience et une relation artistique, elle n'est pas un endroit d'une production, elle est un endroit d'une démarche. Donc l'envie était de pouvoir convoquer également des artistes dont les protocoles de recherche, dont ce qu'ils travaillent nous intéressait particulièrement. Donc la base est faite sur à nouveau des formes de ping-pong. Katharina venait à d'autres institutions. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la performance et dans le monde du spectacle vivant. Donc il y a eu cette forme effectivement de mise en commun d'idées. Et à côté de ça, très, très pratiquement, entre guillemets, il y a le fait de se bouger les fesses, il y a l'effet d'aller voir, d'aller en atelier, de rencontrer les gens, et également, à un moment donné, de fonctionner par capillarité. Les artistes qui nous intéressent sont aussi des artistes qui se travaillent avec des artistes dont les affinités sont importantes. Et à un moment donné, c'est aussi intéressant, pas seulement de faire l'anthologie, mais de faire aussi cette forme de clin d'œil à l'aspect rhizomique d'une scène, à l'aspect rhizomique d'une pratique. Ce qui se trame, entre guillemets, ce qui se fomente au vaisseau, repose véritablement sur ces logiques effectivement rhizomatiques. C'est ce qui nous intéresse. Et donc souvent, et c'est ce qui, je crois, permet à un moment donné également de distinguer, d'une part, et d'autre part, de véritablement créer une singularité, d'avoir une parole pluriverselle, singularisante. C'est ça qui nous intéressait.
Mais à quel moment vous vous êtes dit, je suis tellement d'accord avec tout ce que vous dites, merci de dire ça, à quel moment vous êtes dit quand vous avez eu ce groupe de, Katharina, vous avez dit 56, c'est ça?
Oui.
C'est elle qui a conclu.
C'est elle, ça. 56. Oui, à quel moment vous vous êtes dit, c'est ça, c'est ce groupe-là, en faisant ça, on montre ce que ça veut dire, la performance aujourd'hui, et on arrête avec... avec toutes ces idées reçues.
Les paroles étaient très diverses. Donc, la discussion qui s'est engagée a relevé justement sur l'envie de faire cohabiter. Le mot a été évoqué à plusieurs reprises. De faire cohabiter et d'agréger des régimes d'immanence, des régimes d'historicité, des langages différents. Donc, quand on a eu le sentiment, en effet, non pas d'une répétition, mais d'une cohabitation. J'aime bien cette idée d'harmonieuse dissension. Quand la dissension nous a semblé au bon endroit d'harmonie, ça a été effectivement conclu. Et Katharina s'est adjoint à la collaboration également avec une dramaturge. Donc elles ont... Là, je te laisse effectivement présenter le travail que vous avez fait ensemble. Oui. Mais il y a effectivement tout un travail à l'endroit d'une dramaturgie. Donc cette édition est une édition protocolaire. L'envie à la faveur des autres éditions et notamment, effectivement, plus particulièrement encore, pousser la dimension dramaturgique. On est clairement dans une narration spéculative. Donc ces dimensions-là, c'est effectivement ce qui sera encore plus déployé après cette édition protocolaire. Si tu peux en dire plus sur le travail qu'il y a à elle, c'est cool.
Oui, effectivement, Stéphanie, il y a cet aspect qui est novateur aussi dans les panoramas des festivals, puisque depuis les débuts, nous semblait très intéressant de nous associer à la présence d'une personne extérieure au projet, de nous accompagner pour l'écriture dramaturgique et pour savoir accompagner à la fois les artistes et les spectateurs, spectatrices dans ces grands processus. Et donc, effectivement, par compagnonnage, nous avons été invités. Yael Salomonovitch, qui est donc la directrice et fondatrice de Performance Agency, cette plateforme de curation et production pour la performance. Elle a travaillé avec les plus grands et talentueux artistes en Europe et dans le monde entier. Elle nous a fait l'honneur de travailler pour cette première édition. Et effectivement, à cette panoplie d'artistes qui vont effectivement prendre possession de tous nos lieux, on a décidé de superposer une couche performative qui sera donc celle de la présence d'un certain nombre de personnages qui sont des transits actrice. Et ces personnages, et je vais expliquer mieux dans quelques instants, vont porter des costumes d'une artiste talentueuse qui est Rosie Sapelkin, que nous avons pu connaître effectivement grâce à Lou, qui nous a présenté cette artiste très talentueuse qui va fabriquer des costumes pour ces personnes qui vont amener les publics à enfreindre donc les règles, les portes qui vont accompagner au sein de au moins 5 dramaturgies différentes. Et donc, ils vont avoir un rôle de onironaute. On parle de, effectivement, comme chaque bulle performative qui va être présentée les 18 octobre comme une bulle onirique. Toutes ces bulles oniriques vont être liées par ces onironautes, donc des navigateurs des espaces rêves, que pendant 12 heures vont être là pour d'un côté accompagné, de l'autre côté rassuré, les publics tout au long de ce fragment de vie.
Merci. Y a pas, dans ce que vous disiez toutes les deux, Stéphanie et Katerina, j'avais un peu la sensation qu'il y avait aussi l'envie de que le public à la fin sorte de là en disant ça peut être ça, la performance, de répondre à cette première question qu'on avait, mais c'est quoi la performance ? Et j'adore Stéphanie quand vous dites, c'est pas comme une théâtre de la danse, c'est pas rangé dans une boîte. Est-ce qu'à un moment, vous êtes posé la question de l'archive, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire de ce festival ? Quelles traces vont être laissées après ?
Tout à fait. C'est une question qui traverse pas mal ce qu'on fait au centre. Puisque je le disais tout à l'heure, quand vous me demandiez qu'est-ce que le Centre Pauline Bressel, je disais, on n'est pas un lieu testamentaire, on n'est pas un musée, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Et par rapport à l'endroit, effectivement, de l'archive, se poser la question, effectivement, de savoir comment on le restitue. Ben, l'idée, en fait, c'est de ne pas le restituer parce que, précisément, il a été vécu. On avait expérimenté un protocole que j'ai nommé Frankensteinisation lors des heures sauvages. L'idée était, donc les heures sauvages, c'était également une quarantaine d'artistes présents effectivement l'espace de quelques heures à la réouverture du centre, qui performaient, qui agissaient, qui s'emparaient des espaces. Et en fait, on a demandé à deux artistes, en l'occurrence un graveur, de restituer à sa façon, au travers d'un nombre de gravures originales, son ressenti de ces heures sauvages. C'est Frédéric Cochet qui a réalisé 9 gravures originales de ces heures sauvages performatives. Et on a demandé également à une conteuse d'écrire une histoire, une fable sur ces heures. Donc là, pareil, l'envie est non pas de restituer ce qui a fondamentalement à être vécu. Et à un moment donné, on a... je crois que c'est intéressant resubstantialiser le moment, le vécu. Tout peut pas être traduit, tout ne peut pas être restitué, tout n'a pas vocation à l'être. Donc là, l'idée, ce sera plutôt effectivement de travailler sur une fiction qui sera écrite à partir de Performissima. Donc vraiment à nouveau jouer sur comment de ce moment furtif faire un autre régime et une autre ontologie ? Comment Performissima aura un autre régime d'immanence ? J'aime cette idée, c'est Étienne Souriot qui parlait de l'instauration. Comment on instaure à un moment donné les choses ? Et comment la possibilité d'instaurer crée des nouveaux étangs ? Pas des nouveaux êtres, mais vraiment des nouveaux étangs. Et ça, pour moi, c'est vraiment effectivement quelque chose qui a été déterminant. Donc, quand, de manière assez classique, on s'est dit, on va faire des photos, on va faire... Non, parce que ce n'est pas intéressant. Et parce que l'idée, ce n'est pas de vendre le projet. L'idée, c'est au contraire de faire aussi mythologie, de faire aussi rumeur, de faire aussi un régime de souvenirs. J'aime cette idée que les gens puissent se dire t'y étais, non ? C'est ce jeu-là aussi qui doit être joué. C'est jouer du mystère. Il y a une beauté dans l'obscur. Et donc, délibérément, cet événement doit nous amener, comme disait Starhawk, à rentrer dans l'obscur.
Il nous reste un peu plus de 5 minutes. Je vais redonner la parole un peu aux artistes. Pour que juste vous me disiez chacun, à quelle heure on pourra vous voir le 18 octobre ? Est-ce que vous allez faire, si vous ne l'avez pas déjà assez expliqué, enfin, si vous avez envie de rajouter quelque chose là-dessus ? Gérald, peut-être ?
D'accord. Je fais le warm-up de Ferris Records.
Ah,
je joue à 22h, je crois, 22h. Dans un des espaces de cet espace organique. En tout cas, c'est une boîte, une grande boîte noire.
On va faire un pic à billes avec Chouf, Otto et Gata. Bon, c'est du coup Talita Otovic et Polo Gata Base et moi. C'est du coup et toi le warm-up, c'est ça?
Bah, c'est pas exactement le meilleur warm-up. Enfin, mais je suis avant vous en tout cas.
Assez by night. Félix, je crois qu'on va se voir un peu plus tôt, nous, non?
Moi, je performe deux fois, une fois à 14h et une seconde fois à 19h. Voilà.
Et donc, du métal et du mouvement.
C'est ça.
Merci. Gérald, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, j'ai réagissé sur métal, c'est juste...
Je pense que Félix finira par faire de la musique métal. Vous allez finir par faire tout ça.
Moi, je passe à 20h seul et du coup, je crois que c'est 23h en Big Atby, c'est ça?
Oui.
Et ma dernière question, elle est sur, est-ce que, elle est pour Stéphanie et Katharina pour le coup, est-ce que vous êtes déjà en train de penser un performance cinéma l'année prochaine ou est-ce que vraiment il y a cette idée que ce soit quelque chose de non reproductible comme la performance doit l'être?
Ah si, on a tellement envie déjà.
Elle me harcèlera.
Et déjà, on parle, ah oui, ça c'est pour Performissima 2, oui, on est déjà lancé dans cette... Oui, l'idée c'est effectivement, cette année c'est une édition prototypale, on teste sur ce format 12 heures avec cette abondance de personnes qui vont habiter nos lieux. On ne sait pas du tout comment ça va être l'année prochaine, mais on a absolument envie de se lancer sur une prochaine édition.
Donc l'idée, c'est que ce soit un rendez-vous
annuel
pour l'instant.
Oui,
annuel. On aime beaucoup l'idée. Félix me demande la parole.
Oui, non, je voulais juste ajouter quelque chose qui représente, je crois, une chance pour nous. C'est que c'est aussi un moment où on peut rencontrer ses pairs et que c'est assez... assez rare en fait, hein, suffisamment rare pour qu'on puisse le noter là et que ça fait grandir dans le travail ça aussi. Je voulais aussi ajouter moi que je travaille avec une compagnie qu'on a créée, un collectif qui s'appelle Crème Soleil et deux de mes camarades, Anaïs Barras et Etienne Clapper, vont aussi présenter une performance qui leur appartient et qui seront les leurs, qui n'appartiennent pas au collectif là mais qui seront présentes et donc Performissima est aussi une sorte de grand collectif qui s'invente là où on rencontre nos pairs et on invente éventuellement des collaborations à venir avec d'autres et c'est un élément qui me semble important.
Il y aura évidemment une édition 2 et avec cette même idée d'organicité, avec cette même idée non pas d'universel mais de pluriversel, cette même idée de cohabitation en deux voix dissonantes. Donc il y aura une édition 2, on a déjà moi, j'ai vraiment envie qu'on accentue le côté narration spéculative avec des scénarios, avec des possibilités comme un jeu sémantique à partir effectivement de l'agencement différent des mots. En l'occurrence, chaque mot, là, est une performance. On a 5 histoires différentes. Donc, on a déjà réfléchi à pas mal de possibilités d'exploitation. Et toujours, et ça, Katharina le disait, le mot même en est la traduction, cette même envie... d'excroissance entre guillemets, cette même multiplicité qui est vraiment un pied de nez à cette idée conquérante d'unicité. Donc il y a une volonté de pas tant que les gens repartent transformés, parce que ça relève pas de nous, quoi. C'est libre à chacun de le sentir ou pas, mais au moins que les gens repartent avec cette aspiration à aller vers des choses qui soient complexes. La complexité, c'est pas la cécité. La complexité, c'est pas la perte. La complexité, c'est la possibilité de démultiplier. C'est la possibilité d'une vie en expansion. Donc, c'est, l'envie, c'est vraiment ça. C'est de dire, plongez. Plongez littéralement dans cette complexité.
Je sais pas si, Lou, vous voulez rajouter quelque chose?
Moi, je voulais appeler ce que Katharina et Félix ont dit sur l'idée de... Et même, toi, Stéphanie, tout à l'heure sur l'idée des scènes et de les mettre ensemble. C'est, moi, je suis arrivée parce que j'ai rencontré Katerina l'année dernière et elle m'a proposé de participer à Performissima. Et finalement, il y a, je crois, 6 ou 7 personnes de mon entourage qui sont rentrées dans le projet aussi. Mm-hmm. Et je trouve que c'est extrêmement juste, quelque part, parce que moi, je ne crée pas toute seule dans un coin. On crée, toutes ces personnes, on crée avec des écosystèmes, des gens, des soirées, des relations entre nous, avec tout ça autour. Et c'est ça qui influence nos inconscients et nos expériences, etc. Et du coup, prendre des bribes de ces mondes-là et les montrer ensemble, déjà, c'est beau et c'est une chance. Merci de nous donner cet espace-là. Et en même temps, je trouve que c'est une manière assez... juste de montrer des angles de scène et de où elles sont, parce que c'est vraiment ces gens-là qui sont des ateliers ensemble, qui créent ensemble et qui s'inspirent les uns une les autres. Donc ça, c'est, je trouve, c'est l'aspect vraiment cool du festival aussi.
Ce festival donc qui aura lieu à Paris, qui s'appelle Performissima, ce sera le 18 octobre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Félix Touzalin, Lou Forou, Gérald Curdian, Stéphanie Percourt et Katerina Zevola. On se retrouve donc le 18 octobre à Paris. Merci à Du Radio de nous avoir accueillis et merci de nous avoir écoutés en direct et merci de nous écouter en podcast là à partir de très bientôt. À la prochaine fois. Au revoir.
Merci. Radio P.